être là non seulement dans ta maison, Seigneur, la borne, mais aussi être là dans ta présence, et recevoir cette parole, la seule dont nos âmes ont besoin, la seule qui est capable de nous transformer, de nous métamorphoser à ton image. Seigneur, merci, ô Dieu, de nous aider à nous concentrer sur toi et sur toi seul, à boire ta parole, à la manger avec appétit, Seigneur, car ta parole est ta parole seule, et le moyen par excellence que tu utilises pour te révéler aux hommes. C'est le moyen que tu utilises, Seigneur, pour nous communiquer ta vie, pour nous remplir de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Parle-nous ce matin, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et fais descendre, Seigneur, ô Dieu, sur chacun de nous, cette rosée d'en haut qu'est ta parole, et qu'en descendant et qu'en étant cueillie dans nos cœurs, cette rosée puisse, Seigneur, nous rafraîchir, puisse, Seigneur, apporter la vie à nos membres, aussi bien spirituels que physiques, que cette parole, en étant reçue, puisse, Seigneur, constituer une véritable source de vitamines spirituelles, Seigneur, d'éléments spirituels dont nous avons besoin pour nous requinquer et poursuivre notre marche dans la gloire. Bénis ton serviteur, donne-lui de transmettre fidèlement ce qui vient de toi. Merci de toucher notre intelligence et de la rendre perméable, Seigneur, à ta pensée. Merci pour tout. Parle-nous, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous venons donc de passer des moments merveilleux à adorer le Seigneur, à le louer. Et nous voulons demeurer dans sa présence, ne pas la quitter, et recevoir sa parole depuis sa présence. Nous allons donc, sans plus tarder, relire notre texte de la fois dernière, à savoir 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 18, et revenir une fois de plus sur ce thème du comment faire lorsqu'il nous arrive d'être cerné de toutes parts par toutes sortes d'adversités. Comment faire lorsque nous sommes entourés de toutes sortes d'obstacles qui nous empêchent d'avancer, de toutes sortes de problèmes qui se dressent devant nous comme de véritables montagnes, de véritables Kilimandjaro ou Pic Everest. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'humainement il n'y a plus rien à faire? 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8, nous lisons. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné l'homme de Dieu, à savoir Élisée, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela donc ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, mon seigneur le roi. Seulement, le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit, « Allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon maître ou mon seigneur, comment ferons-nous ? » Élisée répondit, « N'aie pas peur ou ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors Élisée pria le Seigneur en disant, « frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. Et le Seigneur les frappa d'aveuglement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comment faire lorsque nous sommes entourés par toutes sortes de problèmes, par toutes sortes d'obstacles, par toutes sortes de choses qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'aller avant? Que faire lorsque une troupe nous entoure, constituée de gens qui ne cherchent que notre malheur, qui ne cherchent que notre destruction, qui ne jurent que par notre disparition, par notre défaite? Eh bien, nous l'avons vu, je voudrais revenir une fois de plus là-dessus, car s'il y a une interrogation qui est censée nous accompagner tout au long de notre pèlerinage ici-bas, tout au long de notre odyssée du temps vers l'éternité, s'il y a une interrogation qui est permanente dans l'existence humaine, c'est bien celle-là. C'est cet adverbe « comment ?» N'est-ce pas? Nous avons déjà eu à nous poser, à utiliser cet adverbe pour nous interroger à chaque fois que nous avons eu affaire à des choses qui nous dépassaient, à des circonstances adverses, à chaque fois que nous avons eu affaire à des ennemis de tout genre. Eh oui, comment faire? Vous le savez tous, pour les amateurs de foot, le dimanche d'aujourd'hui est un dimanche particulier, puisque c'est un dimanche, eh bien, qui va enfin connaître le champion d'Europe, l'équipe qui remportera donc cet Euro 2016. La France et le Portugal vont donc s'affronter ce soir, n'est-ce pas? Et par rapport à cet affrontement, j'aimerais vous dire une chose, c'est que s'il y a une question qui taraude, une question qui préoccupe tant les deux coachs, les deux entraîneurs, c'est bien celle-ci, comment faire pour remporter le match, oui ou non? Voilà. Comment faire? Et par rapport à cette interrogation, eh bien chaque entraîneur va voir quel type de défense avoir pour ne pas encaisser et quel type d'attaque avoir pour marquer des buts. Donc vous voyez mes amis, pour les deux entraîneurs, cet adverbe, eh bien, est de plus en plus présent. Chacun essaie de voir, chacun essaie de torturer son esprit en essayant de voir les failles de l'équipe adverse, en essayant de voir les points forts de l'équipe adverse pour essayer, eh bien, de tout faire et ainsi remporter donc la victoire. Cet adverbe, comme je le disais, sert à interroger sur le moyen. Quand on se pose la question du comment, c'est qu'on est en train de s'interroger sur le moyen, sur la manière, n'est-ce pas? Quels sont les moyens à ma disposition pour pouvoir affronter cette adversité? Comment vais-je faire la manière pour arriver à la victoire, pour surprendre l'ennemi et triompher de lui? Comment faire? C'est donc cette interrogation qui préside, mes amis, qui préside entre autres à l'élaboration en aval de la stratégie à utiliser, stratégie susceptible de nous conduire à la victoire. C'est parce qu'on se pose des questions, ou la question du genre « comment ?» en amont, que nous puissions alors, en aval, trouver des réponses. Et parler des réponses en aval, lorsqu'on se pose la question du « comment ?», c'est de voir quels sont les moyens que nous pouvons utiliser, quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes, pour pouvoir remporter la victoire face à nos adversaires. Comment? Comment faire pour relever le défi qui est devant moi? Comment faire pour relever ces défis qui sont devant nous? Rappelez-vous du peuple d'Israël. Après sa sortie d'Égypte, ce peuple s'est mis en route vers la terre promise que le Seigneur, eh bien, avait disposée pour eux. Ils ne sont pas partis en avion. C'est-à-dire, le Seigneur n'a pas envoyé des aigles pour les prendre tous et les amener donc, hop, les larguer sur la terre promise, pas du tout. Ils sont sortis et puis ils se sont mis en route sous la conduite de Moïse vers la terre promise. Et à un certain moment, ce peuple va se retrouver comme dans un étau, comme pris en tenaille. D'un côté, l'armée Pharaon avec ses chars, avec ses cavaliers, avec des troupes aguerries qui s'approchent tout doucement. Et de l'autre côté, mes amis, un obstacle humainement infranchissable, à savoir la mer des Jonques ou la mer Rouge. Les voilà, mes amis, dans cette situation ou dans cette impasse, prétendue impasse. Et que faire? Eh bien, comme pour le serviteur d'Élisée, le peuple a commencé à avoir peur. C'est alors que Moïse, mes amis, va se tourner vers le peuple pour les exhorter à bannir la crainte de leur cœur, à ne pas laisser la peur les paralyser, à ne pas laisser la crainte, mes amis, les prendre en otage et les empêcher d'expérimenter pleinement la victoire de celui qui les avait délivrés du joug et de la servitude d'Égypte. Qu'est-ce que Moïse répond au peuple alors que celui-ci, mes amis, est en train de tourner en rond, est en train de tourner, de regards inquiets? Qu'est-ce que Moïse leur répond face à cette crainte, face à cette peur? Moïse leur dit, comme Élisée le dira plus tard à son serviteur, nous l'avons lu, « Soyez sans crainte, ne craignez point, rassurez-vous », comme une manière de leur dire, « Écoutez, n'ayez pas la mémoire courte. Celui qui nous a délivrés de la puissance des pharaons, qui a permis que nous puissions quitter cet état, cette terre d'esclavage, cette terre d'asservissement, est encore le même avec nous maintenant, alors que ce même peuple vient derrière nous et que devant nous, il y a cet obstacle naturel que la mer morte et la mer rouge. Soyez sans crainte. Restez en place. Voyez-vous, restez là où vous êtes. N'essayez pas d'aller ni à gauche ni à droite. Restez en place. » Et il ajoute, « Et voyez comment le Seigneur va vous délivrer. Comment le Seigneur va vous sauver. » Et il ajoutera, le Seigneur combattra pour vous. Soyez sans crainte. Et oui, la crainte. C'est un des grands adversaires, le premier adversaire que nous rencontrons lorsqu'il y a un obstacle devant nous. Ce n'est pas d'abord l'obstacle en lui-même. Ce n'est pas d'abord l'adversaire objectif devant nous, mais c'est d'abord et avant tout la crainte en nous. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, rien n'est plus à craindre que la crainte. C'est un ennemi que nous devons absolument combattre. Car là où il y a la crainte, là la foi refuse de s'exprimer. Là où il y a la crainte, là où il y a la paralysie. Voyez-vous, parce que la crainte suscite en nous toutes sortes de sentiments et qui, si nous ne faisons pas attention, finiront par créer une force, une sorte de force centrifuge qui nous éloignera du Seigneur. Soyez sans crainte et voyez comment le Seigneur vous sauvera. Comment le Seigneur vous délivrera. Comment? Eh bien, se poser ces questions, c'est-à-dire faire appel à cet adverbe interrogatif, c'est essayer de trouver les moyens et la manière d'affronter le problème qui est là devant nous. Essayer de trouver les moyens et la manière de faire face à l'obstacle, aux adversaires, à l'ennemi ou aux ennemis qui sont là en vue de triompher d'eux. Revenons à notre texte. Le jeune serviteur est perturbé. Il perd sa paix. Il a bien dormi aux côtés d'un grand homme de Dieu comme Élisée. Et quand il se réveille tôt le matin, eh bien, il constate une chose. Il constate quelque chose qui va susciter en nous toutes sortes de sentiments de peur, de crainte, etc. Il voit que la ville de Dothan, où ils étaient, était cernée par une troupe de soldats, par l'armée syrienne composée de cavaliers, des chevaux et des chars, tout autour de la ville. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, Dothan donc, se trouvait entre des collines au nord et au sud. Donc de là, de la ville, ils pouvaient voir eh bien, tous ces chars, tous ces cavaliers et tous ces chevaux entourant la ville, cernant la ville. Et c'est là qu'il pousse ce cri, en retournant voir son maître. Comment ferons-nous? En posant cette question, s'attendait-il à ce que l'homme de Dieu lui dise, écoutez, dis-moi un peu, c'est quoi exactement? Oh, tu ne peux pas t'imaginer, maître, c'est vraiment des chevaux, des chars qui sont là autour de nous. Nous sommes foutus. Qu'allons-nous faire? Il s'attendait peut-être à ce qu'ils lui disent, ok, c'est très bien, essayons de creuser un tunnel pour pouvoir sortir de la ville, ou essayons de faire ceci ou cela. Mais l'homme de Dieu ne va pas lui proposer une stratégie. L'homme de Dieu ne va pas lui donner des moyens pour essayer d'échapper. Mes amis, aux Syriens, mais l'homme de Dieu commence par le rassurer. Oh, alléluia. Chaque fois que le Seigneur est intervenu en faveur de son peuple, un peuple en péril, un peuple en perdition, un peuple face à toutes sortes d'obstacles, vous verrez que dans le Nouveau Testament, à chaque fois le Seigneur est intervenu en disant, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Calmez-vous, je suis là. Alléluia. Il commence par le rassurer, rassurer son serviteur. Pas avec des mots comme ça, balancés à son visage, pas du tout. Il va lui dire, il va lui donner une parole de révélation, une parole qui va le préparer à faire une expérience qu'il n'avait jamais faite auparavant. Que lui dit-il? Sois sans crainte, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Cette parole apporte la lumière aux serviteurs. Cette parole apporte, mes amis, le calme, la sérénité, la paix aux serviteurs. Il s'entend dire par son maître que ceux qui sont avec eux. Mais pendant que l'homme de Dieu prononce cette parole, physiquement parlant, ils ne sont qu'à. Mais ils avaient appris à voir au-delà du visible. Alléluia. Il y a là, mes amis, une grande leçon pour nous. La réalité du monde invisible qui nous entoure. Développer une vision appropriée, une vision équilibrée, une vision adéquate du monde spirituel qui nous environne est une condition fondamentale pour pouvoir mener une vie de victoire, une vie remplie de paix. S'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont tout le temps sur la défensive, s'il y a des chrétiens qui ont tout le temps, qui mènent une vie marquée par la peur, par la crainte des sorciers, des magiciens, de gens qui traficotent avec les puissances des ténèbres, c'est tout simplement parce que ces chrétiens-là, parce que ces hommes et ces femmes qui se réclament du Christ, n'ont pas une vision claire du monde invisible qui les environne. S'ils pouvaient savoir que ceux qui sont avec eux sont plus nombreux que ceux qui sont derrière le sorcier, oh combien ils marcheraient avec foi, avec confiance. Oh combien, mes amis, la crainte serait à des années-lumière de leur vie et de leur existence. Parole de révélation, parole qui apporte la lumière aux serviteurs en ce qui concerne le monde des ténèbres, en ce qui concerne la réalité spirituelle autour d'eux. La deuxième chose qu'il fait, non seulement il se contente de lui dire, de le rassurer, de lui donner une parole qui lui permette de réaliser qu'au-delà du visible, il y a une réalité invisible. Il va prier. Le prophète prie pour que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de son serviteur. Et c'est ce qui va se passer. Le Seigneur va ouvrir les yeux de ses serviteurs. Il va enfin recevoir la vraie vision concernant le monde spirituel. Alléluia. Et dans ce monde spirituel, il va voir deux réalités. Il va voir, eh bien, au-delà des Syriens, une réalité spirituelle des ténèbres, et autour d'Élysée, une réalité spirituelle divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceci nous montre, frères et sœurs, la nécessité, l'importance d'avoir une vision claire en ce qui concerne le monde spirituel qui nous entoure. L'homme est une singularité en ce qu'il est, il vit simultanément dans le monde spirituel et dans le monde physique. Il n'est pas seulement une réalité spatio-temporelle, l'homme. Il y a une dimension spirituelle dans l'homme, mais il y a aussi une dimension spirituelle autour de l'homme. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. La parole de Dieu est claire, mes amis. C'est pourquoi je voudrais que vous puissiez être formatés par la parole de Dieu plutôt que par toutes ces philosophies d'obédience comme matérialiste qui amènent les gens à vivre avec une vision strictement matérialiste qui ne croit pas à tout ce qui est spirituel. Voyez ? Et beaucoup de philosophies travaillent à communiquer aux gens cette vision d'athéisme. Et nos sociétés s'athéisent. Ici, chez nous, nous sommes encore à l'abri. Gloire au Seigneur. Mais de l'autre côté, en Occident comme ailleurs, les sociétés s'athéisent à une vitesse d'enfer. La nécessité d'avoir une bonne vision de la réalité spirituelle. Lorsqu'on n'a pas cette bonne vision, lorsqu'il y a une défaillance à ces niveaux-là, voyez-vous, lorsqu'il y a carence à ce niveau-là, eh bien, on court les dangers, ou on court beaucoup de dangers. Je vais m'attarder un tout petit peu sur les conséquences d'une vision défaillante, d'une vision qui serait à des années-lumière de la réalité, telle que la parole de Dieu nous le montre, d'une vision, eh bien, qui ne serait pas fondée sur la parole de Dieu. Lorsque on n'a pas une bonne vision du monde spirituel dans lequel, enfin, qui nous environne, eh bien, cela conduit à toutes sortes d'attitudes qui, dans la plupart des cas, sont des attitudes aux antipodes, des attitudes que nous devrions avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens, n'ayant pas reçu cette vision du monde spirituel telle que nous la trouvons dans la parole de Dieu, eh bien, on finit par se créer une vision dans laquelle les démons sont omniprésents et aussi omnipotents. Voilà. Puisque les démons sont omniprésents, on les voit partout. Voyez ? Et puisque les démons, prétendus, c'est un signe typographique. Puisque les prétendus démons sont omniprésents, à ce moment-là, qu'est-ce que font les gens? Ils ont peur, oui ou non? Peur de sorciers, peur de gens qui font la magie, peur de tous ceux qui ne partagent pas leurs convictions, peur des esprits, etc. Tout cela pourquoi? Eh bien parce qu'on n'a pas une bonne vision spirituelle et on a peur. Et c'est ainsi que vous voyez des chrétiens, pour peu qu'ils fassent un petit rêve dans lequel ils sont poursuivis par des fourmis, c'est fini. C'est fini. Oh, c'était des fourmis rouges. Mais oui, mais il y a fourmis vertes, des fourmis rouges qui couraient après moi. Oh, ça, ça doit être mon oncle. Avec. Ça, ça doit être ma tante. Vous commencez à vous agiter. Eh bien, écoutez, fourmis ou pas fourmis, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont derrière ces fourmis. Nous ne devrions pas, mes amis, craindre. Nous ne devrions pas craindre. Nous devrions rester en paix. C'est peut-être le Seigneur qui nous montre qu'effectivement, l'ennemi est en train de tout faire, de courir après nous. Et si c'est Dieu qui nous parle de cette manière, ce n'est pas pour susciter la peur, mais c'est simplement de temps à autre, le Seigneur lui dit, tu as tendance à oublier, mais n'oublie pas que tu es encore sur terre. Et tout autour de toi, il y a toutes sortes de fourmis, de caïmans, de ténèbres, de prédateurs, de ténèbres qui sont là, qui cherchent par tous les moyens à t'avoir. Alors sois prudent. Alors, la vision de Dieu ne suscite pas la peur. Au contraire, ça nous amène à nous confier davantage en lui. Gloire au Seigneur. Donc, quand on n'a pas cette bonne vision, on peut croire en tout. On peut donner au diable, eh bien, la position qu'il n'occupe pas et lui donner des attributs qui ne sont pas les siens. Un seul est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. C'est celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Gloire à Dieu. Lui seul, non seulement il est omnipotent, tout puissant, mais il est aussi omniprésent. Il est partout en même temps. Ce que le diable n'est pas, ce que les démons ne sont pas. Alors voir les démons partout, mes amis, c'est entrer dans un univers où vous allez, hélas, mener une vie de malheur. C'est ce qui conduit les gens à une sorte de conduite ou de comportement paranoïde. Voyez, les gens sont paranoïaques. Hein? Dès qu'ils voient quelqu'un, les yeux qui tournent, c'est peut-être un sorcier. Voilà, on commence à prier en langue. Voilà, on rencontre quelqu'un qui marche bizarrement, on n'a pas regardé. Ça doit être un agent du diable. Je lis au nom de Jésus. Mais si vous vivez de cette manière, eh bien, vous serez foncièrement malheureux. Puisqu'à chaque fois, il suffit d'entendre le baffle qui crache. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous en sortir. Voyez? C'est ça, mes amis, c'est ce qui est à la base de beaucoup de problèmes dans les chefs de beaucoup de chrétiens. Et ceci entraîne toutes sortes de problèmes, l'instabilité, le clochardisme spirituel. On devient clochard. Un clochard n'a pas de domicile fixe. Certes, de l'autre côté, on utilise des euphémismes en disant un sans domicile fixe. Mais c'est un clochard. On se clochardise. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on nous trouve que, je vais à la borne, mais je rêve tout le temps de miséléquetés ou comment ? Des lézards et tout ça, je vais aller ailleurs. On va là-bas, ce n'est pas mieux. Voilà, on pensait que l'herbe était très très verte, on arrive là-bas, c'est encore pire. Et puis on change. On risque de faire tout le tour de Kinshasa et de ne pas trouver la solution. Le problème n'est pas en dehors, mais c'est en toi. Tu as besoin que nous prions pour que le Seigneur te donne une vraie vision de la réalité spirituelle. Et lorsque tes yeux s'ouvriront, tu verras que dans le monde spirituel, il y a un seul nom qui fait trembler l'enfer. Il y a un seul nom, c'est celui de Jésus de Nazareth. Il y a des chevaux, ce sont des chevaux noirs. Oui, mais au-dessus de ces chevaux noirs, il y a le cheval blanc de l'Apocalypse 19. Monté par le fidèle et le véritable, monté par le roi des rois, par le seigneur des seigneurs. Alors ne te laisse pas distraire par ce cheval noir, brun, mortifère, qui sont là pour détruire. Aie tes yeux fixés sur Jésus de Nazareth, celui le grand guerrier, le guerrier redoutable, le héros des nations. Là où il passe, là l'ennemi est écrasé. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, sont plus puissants que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Mais quand on n'a pas cette vision, il nous sera difficile de mener une vie de victoire. Voyez? Ou quand on vit avec une vision strictement matérialiste qui limite la réalité qu'à ce qu'on voit, qu'à ce qu'on touche, ce qui est tangible, ce qui est visible au-delà, ben, ça n'existe pas. Eh ben, là aussi, là, l'ennemi se frotte les mains. Car, lorsqu'on ne croit plus en lui, lorsqu'on pense que le diable n'est qu'une création médiévale, lorsqu'on pense que le diable n'est qu'une image qu'on a utilisée pour illustrer le mal, eh bien là, le diable est content. Et je peux vous assurer que dans certains pays rongés, gangrénés par l'athéisme et par cette vision strictement matérialiste, les gens sont manipulés par des puissances des ténèbres sans qu'ils les sachent. Voyez? Donc, soit on a une mauvaise vision qui donne au diable le pouvoir qu'il n'a pas, qui donne aux démons les attributs qu'ils n'ont pas. Voyez? Quand on est en face d'un sorcier et on commence déjà à trembler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Ça veut dire que nous souffrons de cécité spirituelle, d'aveuglement spirituel. Car si nous pouvions être comme Élisée, voir au-delà du visible, nous verrions que ceux qui sont avec nous, les anges du Seigneur, ces esprits qui sont au service de ceux qui sont appelés à hériter du salut, sont plus puissants que les démons. Si nous avons la vision, nous pouvions avoir la vision d'Élisée, selon laquelle, le Seigneur est tout puissant, mes amis, nous irions de victoire en victoire. Rien ne pourrait nous arrêter. Quand bien même on nous dirait que voilà, telle ou telle autre personne, pratique le mysticisme le plus dangereux qu'il soit, ça ne nous ferait ni chaud. Au contraire, on aurait pitié de lui. On se dirait, voilà encore un esclave du diable. Voilà encore un homme qui est complètement obnubilé et manipulé par les démons. Voyez. Donc, cette vision défaillante est dangereuse. Nous avons besoin d'une vision claire de la personne de Dieu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Voyez. L'objectif ultime, c'est de permettre à chacun de nous d'avoir une vision claire de notre vie, mais aussi du monde spirituel qui nous entoure. Lorsque je sais que Jésus est tout-puissant, eh bien, où que j'aille, je serai toujours en paix. Alléluia. Que je dorme au bord de tel ou tel autre fleuve, ou de telle ou telle autre rivière qui aurait une très mauvaise réputation, selon laquelle ce fleuve ou ce cours d'eau serait le lieu où tous les démons viennent se baigner, ben, je dormirai en paix. Je dirai simplement, Seigneur, toi tu es plus puissant que ces démons qui viendraient se baigner ici. Je dors en paix. Maintenant, s'ils viennent vous attaquer, vous ne dormez pas, vous réveillez. Vous prenez simplement autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Et après, vous vous recouchez. Celui qui est avec nous est tout puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes, nous enfants de Dieu, les enfants de lumière. Nous ne pouvons pas nous laisser impressionner par les ténèbres quelles qu'elles soient. Nous devrions être des lampes placées quelque part pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et quelquefois, la confrontation entre la lumière et les ténèbres, peut, à un certain moment, avoir un impact sur notre vie, mais ne baissons pas les bras. Avançons, car in fine, la victoire finira par éclater. Car Jésus a vaincu une fois pour toutes. Alléluia. Rappelez-vous de ce que nous avons vu au cours de notre séminaire. Notre adversaire est limité. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. C'est un ennemi vaincu hier, c'est un ennemi vaincu aujourd'hui, c'est un ennemi vaincu pour l'éternité. Alléluia. Donc, soyez en paix. Vous envisagez peut-être de faire un voyage au village. Eh bien, ne vous tracassez pas. Ne vous tracassez pas. Oui, prenez votre vaccin. c'est tout. Allez-y. Qu'on vous accueille avec des femmes et tout ça, rendez grâce à Dieu. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne déjà. Alléluia. Donc, cette vision défaillante a des répercussions terribles dans notre vie. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu habite en nous. Et celui qui est en nous est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui agit derrière nos adversaires, derrière nos ennemis. C'est lui qui est avec nous, c'est lui qui est pour nous, c'est lui qui est en nous, s'appelle le héros des nations, le guerrier redoutable. Alléluia. Lorsqu'il entre dans un combat, eh bien, l'issue est connue d'avance. Il gagne toujours. Il gagne toujours. Il triomphe toujours. Alors, mes amis, soyons en paix. Peut-être nous sommes dans une sorte de dotant, comme Élisée et son serviteur. Tout autour de nous, il n'y a que des adversaires. À gauche, à droite, devant nous, derrière nous, il n'y a que des gens qui nous haïssent. Il n'y a que des gens qui cherchent notre malheur. Ne te laisse pas impressionner par leur haine. Ne te laisse pas impressionner par leur prétendu pouvoir. Mais regarde à celui qui est en toi. Tant qu'il sera avec toi, quand bien même ils seraient plus nombreux autour de toi, tu serais le seul dans ce bureau-là à connaître Jésus. Sois en paix. Ils peuvent avoir toutes sortes de démons avec eux. Ils peuvent s'appeler les gens. Vous rappelez de ces démoniaques de Gadara qui, hélas, à cause de la présence démoniaque en lui, avait complètement perdu la raison. C'était un démon, c'était un fou violent. Voyez, personne ne pouvait le maîtriser. Il passait tout son temps au cimetière. Il se meurtrissait, tout ça, jusqu'au jour où la grâce de Dieu va visiter cet homme-là. Il nous a dit que Jésus passait par là. Et ce démoniaque violent, ce démoniaque fort, qui défiait tout le monde, mes amis, devant lequel tout le monde prenez la fuite, quand Jésus passe, il y a là comme une force, oui, une force extraordinaire qui l'attire. Il vient, quand Jésus le regarde, il ordonne aux démons, les démons commencent à trembler. Il leur demande, vous êtes à combien? Ils disent quoi? Nous sommes une légion. Et quand on connaît que la légion romaine était donc une division militaire qui contenait des centaines de soldats, on peut alors s'imaginer le nombre de démons qu'il y avait dans cet homme. La preuve, lorsque Jésus les a chassés et qu'il leur a permis d'aller dans un troupeau de cochons, eh bien, ils ont entraîné tous ces cochons, tous ces porcs dans la mort. Hein. Mais Jésus était seul. Il n'a pas eu besoin de dire, ah, vous êtes quoi, légion? Oh là là, aux centaines. Père, envoie-moi Gabriel. Envoie-moi 4 légions d'anges. Est-ce qu'il a fait ça? Pas du tout, il n'en a pas besoin. Car il est le créateur de toutes choses. Il les a ordonnés de sortir. Et ils sont partis. Ça, c'est notre Jésus. Alors que tout le monde te voit seul, tu n'es pas seul. Jésus est en toi. Jésus est avec toi. Jésus est pour toi. Gloire à Dieu. Tu n'es pas seul. Il y a aussi tous ces anges au service de ceux qui sont appelés à hériter le salut, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Mes amis, nous sommes des hommes et des femmes privilégiés. Nous sommes des hommes et des femmes qui appartenons au Dieu Tout-Puissant. Et nous avons besoin de vivre avec une vision claire. Il a prié l'homme de Dieu, Élisée, pour que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur. Et quand le Seigneur l'a fait, eh bien enfin, qu'est-ce que le serviteur voit? Il voit des chars de feu. Alléluia. Il voit des chevaux. Mes amis, il y a autour de nous des murailles de feu. Et tant que Jésus est en nous, rien ne pourra tenter à notre vie. Oui, l'ennemi peut nous toucher dans notre corps. Oui. D'ailleurs, même un petit microbe de rien du tout peut nous attaquer, oui ou non? Pourquoi nous prenons les précautions d'usage? Laver les mains tout le temps, c'est parce que partout où nous touchons, il y a des bactéries, il y a toutes sortes, les acariens et tout ça. Et quand on arrive, il faut un certain cadre propre, un environnement propre, il faut se laver les mains, parce que même une petite bactérie de rien du tout peut arriver à détruire notre corps. Oui ou non? Donc ça veut dire que si une petite bactérie, un petit virus, peut faire des dégâts énormes dans notre corps, ben, à combien plus forte raison le diable peut attaquer notre corps, mais il ne peut pas tenter à notre vie. Notre vie est cachée en Christ. Oh, alléluia. Cette enveloppe charnelle restera, retournera à la terre, même si on n'arrive pas à nous attaquer dans ce corps, mais tôt ou tard, la vieillesse nous attaquera. Oui ou non? Eh oui, tôt ou tard, eh bien, la vieillesse nous fragilisera, nous rendra de plus en plus vulnérables. Eh bien, et petit à petit, nous nous approcherons de la mort, et puis un jour, nous nous en irons. Mais toucher à la vie, personne. Regardez les disciples de Jésus. Il y en a qui ont été tués, qui sont morts à martyrs. Pensez à Pierre, pensez à Paul, voyez-vous, pensez à Jacques, l'apôtre. Ils sont morts. Mais le diable n'a jamais détruit la vie. Alléluia. Il les a livrés sur l'autel du sacrifice à cause de leur témoignage. Le corps est retourné à la poussière, mais eux sont passés dans l'éternité. Mes amis, je voudrais simplement encourager tous ceux qui aujourd'hui, au moment où je m'adresse à vous, eh bien, sont cernés de toutes parts par des problèmes, par des ennemis, par des gens qui ne les portent pas dans leur cœur, des gens qui cherchent leur mort, leur destruction, leur perte, etc. Si tel est ton cas, eh bien, sache qu'aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, mais tant que Jésus restera en toi, tant que tu seras le temple du Saint-Esprit, tant que tu feras partie du royaume de Dieu, eh bien, l'ennemi sera toujours un ennemi vaincu. Il pourra te faire peur. Il pourra soulever ou lever la tempête autour de toi au point où ta barque t'engraie de toutes parts. Eh bien, mais il n'arrivera jamais à faire couler ta barque tant que Jésus y sera à bord. Amen. Alléluia. Donc tu as besoin aujourd'hui que nous prions afin que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois que Jésus qui est en toi est tout puissant. Puisqu'il est tout puissant, puisqu'il tient ta vie dans sa main comme un grain de sable, eh bien ce Jésus-là est capable de te donner la victoire. Et vous aurez remarqué que lorsque le Seigneur est intervenu, c'est aussi de manière miraculeuse. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est la présence de la prière. La prière qui nous permet d'entrer dans la révélation de la parole de Dieu, mais la prière qui nous donne également la victoire. Lorsque les Syriens sont arrivés, eh bien, Élisée encore priait. Vous comprenez pourquoi nous trouvons tant de recommandations à travers toute la Bible qui nous poussent à prier sans cesse. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Alléluia. Il a prié et Dieu a frappé d'aveuglement l'armée syrienne. Mes amis, celui qui est avec nous est tout puissant. Soyons en paix. Peut-être que tu as entendu que ta grand-mère t'a maudit. Tu as entendu que ta famille t'a envoyé toutes sortes de paroles de malédiction. Mais si tu es en Jésus, ne te laisse pas abattre par ces paroles-là. La malédiction ne peut rien. Celui qui est en toi a tout pris sur la croix. Alléluia. Il a tout pris. Donc, il est ton bouclier. Toutes ces flèches de malédiction viennent et s'échouent contre ce bouclier impénétrable, ce bouclier indestructible, ce bouclier infranchissable. Oui, nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous allons passer un petit moment dans la prière. Je voudrais donner l'occasion à tous ceux qui se retrouvent dans ce message ceux qui sont cernés, comme Élisée son serviteur dans cette ville de Dothan, ceux qui sont entourés par toutes sortes d'ennemis, je voudrais vous encourager et prier pour vous, car celui qui est avec vous est puissant. David, dans le psaume 118, à partir du verset 10, écoutez ce qu'il dit. « Toutes les nations m'environnaient. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. » Et nous allons prier par rapport à ça. « Toutes les nations m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. » Verset 12. « Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom du Seigneur, je les taille en pièces. » Alléluia. Nous pouvons tailler en pièces nos adversaires. Il nous environne, eh bien, ne nous laissons pas effrayer, terroriser par leur nombre, par l'intensité de leur haine. Nous voulons les tailler en pièces au nom du Seigneur. Alors, si tel est ton cas, c'est-à-dire si tu te retrouves dans un contexte difficile, environné par toutes sortes d'adversaires, entouré d'obstacles de tout genre, d'adversaires qui ne cherchent que votre mort. Si tel est votre cas, je vous demanderai de vous lever et nous allons ensemble, comme David, dans le psaume 118, prier pour que le Seigneur vous donne la force de tailler vos adversaires en pièces. Car celui qui est en vous est plus fort et plus puissant que celui qui est derrière ses adversaires, derrière vos ennemis. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Vous vous êtes levés parce que vous croyez que Jésus est tout-puissant. Et je voudrais vous encourager à continuer à lui faire confiance, à vous appuyer sur lui. Et nous allons tous ensemble prier, invoquer le nom du Seigneur. Nous l'avons vu durant le séminaire, et la Bible est là pour nous le rappeler. Le nom de Jésus est une arme redoutable, c'est une arme efficace. Alors je vous prie d'invoquer le nom de Jésus, voyez, face à vos adversaires. Ils viennent avec des javelots, ils viennent avec des flèches, ils viennent assis sur leurs chevaux. Mais vous, aujourd'hui, tenez-vous devant eux avec le nom du Seigneur. Ils vont finir par tomber, mais vous resterez debout. Car celui qui est en vous, le rocher des siècles, reste inébranlable. Alors au nom de Jésus, nous allons prier tous ensemble. Alléluia.